Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors nous sommes au téléphone avec Sonia Ben Santa Maria. Bonjour Sonia Ben Santa Maria. Donc vous êtes à Londres en ce moment où vous exercez et vous allez bientôt donner un concert à Montpellier, un concert de Noël. On va dire qu'on est dans une tradition presque britannique avec différents compositeurs, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà, vous êtes chef d'orchestre à Londres. Qu'est-ce qui vous a amené à cette carrière de chef d'orchestre?
J'ai commencé d'abord par apprendre le piano. J'ai fait toutes mes classes au conservatoire, mais j'avais pour objectif de devenir chef d'orchestre, donc depuis toute petite. Mais à l'époque, quand j'ai exprimé que c'était un peu l'instrument, entre guillemets, que je souhaitais poursuivre, la direction d'orchestre, à l'époque, on était en 1991. Et ça n'avait pas été possible parce que ça n'existait pas et on m'avait dit que ce n'était pas une carrière pour femmes. Et donc j'ai abandonné pendant quelques années.
D'accord, et puis vous avez repris cette envie, et puis bah, maintenant on peut dire que c'est couronné de succès, puisque vous êtes largement reconnu à Londres, capitale musicale européenne, on peut dire. Vous avez joué avec le London Philharmonic, avec le City of London Symphonia et nombre d'autres orchestres, et pas seulement à Londres. Alors, vous allez donner un concert où il y aura des compositrices anglaises, notamment certaines qui ont été pionnières en matière de direction. Je vois, puisqu'il y a Imogen Hurst, la fille de Gustave, qui a été chef, et puis il y a aussi Ruth
Tout à
Gibbs,
fait.
qui a également été chef d'orchestre.
Complètement, compositrice d'orchestre, clarinettiste, oui, des trois femmes très fortes qui pour moi sont des compositrices britanniques qui ont redéfini la musique du XXe siècle.
Est-ce que, vous l'avez dit vous-même, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, une carrière de chef d'orchestre, ça semble, pour une femme, ça semblait inimaginable. Quelle est la situation aujourd'hui à Londres pour vous? Est-ce que les orchestres, le public, et puis bon, pas seulement à Londres, puisque vous dirigez ailleurs, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que les conquêtes sont définitives ou est-ce qu'il y a encore des préjugés anti-féministes par rapport à la direction d'orchestre?
Non, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué et les femmes ont eu la chance de s'essayer à la direction d'orchestre et il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes aujourd'hui. Ça a été une vraie révolution ces 10 dernières années pour les femmes, internationalement.
En tant que chef, je vois que vous êtes, on vous mentionne souvent comme une spécialiste, une chef recherchée pour les opéras, mais pas seulement, parce que là, vous allez nous donner de la musique de chambre, hein, ça va être une formation de chambre à Montpellier.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a une différence pour vous dans l'approche en tant que chef d'une œuvre de chambre ou d'une œuvre ou d'un opéra?
Oh, mais je pense que c'est quand même un narratif, c'est une histoire qu'on raconte, qu'elle ait des paroles ou pas. Alors, dans l'opéra, c'est plus facile, peut-être, puisqu'il y a une histoire, il y a un libretto à respecter. Mais la musique, c'est un langage universel avec des mots, pas des mots, et surtout dans le répertoire que nous avons choisi avec l'Opéra Orchestre National de Montpellier, l'écriture britannique est très descriptive de l'Angleterre, de la campagne britannique, des traditions, des folk songs, et tout le répertoire que nous avons choisi raconte beaucoup, sans parole.
Là, c'est donc, on va être avec un répertoire du XXe siècle, pour l'essentiel, hein, du milieu du
Oui.
XXe siècle, on peut dire, à part
Tout
Elgar,
à
qui
fait.
lui sera lié à la fin du siècle précédent.
Oui.
Mais je vois aussi que vous êtes très curieuse de musique contemporaine, hein, puisque vous allez donner à Lausanne et Genève, une œuvre de Frank Zappa, qu'on ne connaît pas forcément comme compositeur de musique classique, même contemporaine. Et puis, il y a eu d'autres choses. Donc, vous avez cette curiosité, il y a eu, notamment à Montpellier, il y a eu
Tout à fait.
Négar de Kevan Shemirani.
Oui.
Il y a donc chez vous une curiosité qui va sur toutes les époques, ou il y a quand même des périodes que vous préférez dans la musique?
Alors, j'aime avec le répertoire d'opéra contemporain, c'est, j'ai l'impression que ça rend l'opéra plus accessible, qu'il continue à raconter des histoires sans passer par des compositeurs des siècles derniers. Donc, c'est vrai, vous avez raison, j'ai une curiosité pour le répertoire contemporain opéra. Mais c'est très difficile de dire des compositeurs qui me plaisent plus, je dirais, dans Mozart, Don Giovanni, par exemple. Mais aussi Verdier, qui me parle beaucoup pour sa texture rythmique et des histoires qui sont dramatiques. Oui, c'est dur, je dirais Mozart, Verdi, Bizet, bien sûr, Carmen, les Pêcheurs de Perles. J'aime beaucoup, beaucoup trop de compositeurs pour choisir, je vous avoue.
Alors, on va peut-être s'intéresser un peu plus aux trois compositrices que nous avons évoquées. On les a pas encore nommées toutes les trois, hein. Alors, il y a d'abord Imogen Holst, donc la fille de Gustave.
Absolument.
Donc là, vous donnerez une suite pour cordes, qui est une œuvre qui date des années 20, qui est une de ses œuvres les plus connues, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette œuvre?
Eh bien, ce qui est très, très intéressant, et c'est un lien un peu avec Benjamin Britten, c'est qu'Imogen Holst, c'était une grande collaboratrice de Benjamin Britten. Et elle était aussi directrice artistique du festival d'Aalborg. Et bien sûr, c'est la fille de Gustav Holst, bien entendu. Mais c'est une passionnée de musique ancienne, de danse. Et pour moi, Imogen Holst, elle fait le pont entre le patrimoine, les musiques anciennes, et donc les traditions populaires anglaises, mais aussi l'avant-gardisme britannique du XXe siècle. Donc il y a un lien fort avec Britten, ils étaient très amis. Et c'est pour ça que je voulais aussi la mettre à l'honneur.
Oui, puis là, elle a appris de son père, mais elle a aussi appris je crois, elle a dû apprendre aussi avec le grand ami de son père, avec Ralph Vaughan Williams.
Tout à fait. Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup d'influence de Vaughan Williams. Oui, tout à fait.
Oui, avec, elle a fait,
C'est
il y a
très,
pas mal,
très intéressant.
elle a fait beaucoup d'arrangements, je le disais, beaucoup d'arrangements de musique populaire, notamment.
Voilà, exactement. Tout à
Alors, et
fait.
puis il y a de la même génération, parce qu'elles ont à peine un an d'écart, il y a Grace Williams, une
Tout à fait.
compositrice galloise. Ses
Oui,
biographies
galloise.
insistent là-dessus. Et puis, alors, elle a en commun avec les deux autres compositrices d'avoir travaillé avec Vaughan Williams, notamment. Donc, Grace Williams, alors, vous allez donner deux des six sketches, donc des esquisses maritimes, si je puis dire, hein, des œuvres
Tout à fait.
de 1944, je me suis documenté.
Désolé, tu vois.
Comment vous pouvez
Mais
caractériser, là, le sentiment de la nature est très fort dans ces œuvres-là.
très très fort, très très fort. Et particulièrement, j'ai choisi puisque Grace Williams, comme vous l'avez dit, est très attachée à la nature, mais sa musique raconte particulièrement bien la mer celtique. Vous voyez, la ruralité galloise et l'émotion d'un pays qui est souvent, et c'est à la marge, si on peut dire, si on peut dire. C'est un petit peu. Elle était très, très, très passionnée particulièrement sur la mer celtique comment dire, racines avec le pays de Galles. C'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre en particulier.
Voilà, donc là vous avez pris, vous avez choisi juste la première et la dernière pièce des six sketches. Qu'est-ce qui
Oui, oui.
vous a particulièrement séduit dans ces deux pièces-là?
Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'engouement de ces deux mouvements, si on peut dire. Et juste la description un peu folle, un peu envolée de ces pièces. Et puis, en regardant les autres pièces que nous avons mises dans le programme, il fallait des contrastes. Donc, c'est aussi un choix par rapport aux autres œuvres pastorales que nous avons de Elgar, de Britten, la Simple Symphony, et du coup, j'ai choisi ces deux pièces pour envoler un plus d'énergie, peut-être pour clôturer le programme, je ne sais pas.